au 99.1 88.9 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
On reçoit aujourd'hui pour vous Jean-François Champoux de la série Saint-Michel, le président directeur général. On parlera évidemment du régime forestier. Julie Paquette, toujours au nord, on est vraiment au nord de Matawinie aujourd'hui. On parle avec la vice-présidente communication et stratégie de Nouveau Monde Graphite. Entrevue également avec le maire de Saint-Gabriel. Il y a un boom immobilier, il faut le dire, à Saint-Gabriel, et on en a parlé avec le maire. Entrevue avec Samuel Nazo-Pius, il est cofondateur, dis-je bien, du Mélo Festival, et ça a rapporté un succès assez incroyable de ce côté-là. Il y aura le commentaire de Pierre Paquette, et en fin d'émission, il y aura Hugo Valiquette du Trocul. Mesdames, messieurs, bonne émission! minutes. Écoutez, en fin de journée,
La Naudière PM, ressources naturelles.
Ah oui, je l'avais pas vu venir, celle-là. Non, mais j'aime ça, c'est des bons thèmes. Bravo, merci Nicolas. Nouveau régime forestier qui fera l'objet de quelques amendements dans les prochaines semaines. Il a été sévèrement critiqué par l'ensemble des utilisateurs de la forêt, à l'exception des acteurs de l'industrie forestière. Les gens qui travaillent dans la forêt sont assez satisfaits de ce nouveau régime forestier. Et dans ce sens, je me suis entretenu plutôt aujourd'hui avec le président directeur général de la Syrie Saint-Michel, Jean-François Champoux. Ce régime forestier, Monsieur Champoux, c'est profitable pour les entreprises comme la vôtre.
Ce qui est important de souligner aux gens, là, c'est que la modernisation de la loi a été faite en premier lieu pour atteindre des cibles de préservation du territoire de 30 %. Puis pour arriver comme Québécois à atteindre ces cibles-là, le gouvernement a eu besoin de moderniser la loi afin de s'assurer que tous les acteurs économiques de ces territoires-là soient au final en position d'exercer soit sa chasse, sa pêche, ses opérations forestières. En même temps, là, ils ont travaillé plusieurs onglets de la loi que oui, pour l'industrie, ça venait améliorer le contexte économique parce que le statu quo, tout le monde est d'accord pour dire que c'est plus possible.
Donc, c'était pas acceptable le statu quo. Cependant, on reproche beaucoup au gouvernement de ne pas avoir consulté tous les intervenants de la forêt.
Il y a eu beaucoup de consultations là, qui étaient faites avec les groupes d'intérêt. Là. Même moi, j'ai participé à des rencontres. Puis, c'est certain là, que quand il y a des choses qui changent, ça peut soulever là, des passions, ça peut soulever des colères, puis ça vient. Puis c'est un moment dans l'histoire de la forêt québécoise où on a la chance de discuter pour améliorer la collaboration en forêt. Tu sais, la forêt d'aujourd'hui est complètement différente de la forêt de 25 ans. Il y a beaucoup de villégiateurs qui sont présents sur ces territoires. Il y a beaucoup de chalets avec les bails. Tu sais, c'est loin d'être que ce qu'on vivait dans les années d'une vingtaine d'années.
Même des années 60 également, là, il y avait des territoires là, où les gens avaient des chalets pour 100 ans à l'époque.
Mais tu sais, c'est nous aujourd'hui, là, qu'est-ce que la modernisation de la loi dit, c'est que le gouvernement souhaite préserver 30 % du territoire québécois de l'aménagement forestier et des autres usages. Parce que quand on préserve un territoire, on le préserve pour tout le monde, on le préserve pas juste pour l'industrie. Après ça, qu'est-ce que la modernisation de la loi a démontre, c'est que il inclut des zones multi-usages, d'où ce qu'il y a de la collaboration entre l'industrie et les médiateurs ou les pouvoiries ou les êtres. Puis c'est correct, là. C'est au final, là, tout ce qu'on souhaite, c'est que les intervenants de la forêt s'entendent. Puis c'est une modification. La ministre a proposé une modernisation de la loi pour prendre la loi puis de l'envoyer beaucoup dans les règlements afin d'aider à. T'sais, le Québec, là, c'est comme. On pourrait qualifier ça quasiment comme 10 pays. La foresterie dans la Naudière est complètement différente de la foresterie au Lac-Saint-Jean. Puis la modernisation de la loi, de la façon qu'elle l'apporte, je pense qu'elle va donner l'attitude de pouvoir adapter par région le règlement. Mais tu sais, l'important de ça, tout le monde parle de la zone d'intensification. Mais la zone d'intensification est là pour préserver les investissements du gouvernement quand ils font des travaux sylvicoles pour aménager la forêt pour le futur.
Monsieur,
quand le gouvernement. Oui.
Monsieur Champoux, il y a une grande part des communautés autochtones qui estiment que la réforme forestière est inacceptable. Il y a même certains milieux là, qui ont déjà installé des barricades. Est-ce que ça vous concerne, ça? Est-ce qu'il y a des barricades dans votre coin?
Bien, actuellement, là, on discute avec les groupes là, qui sont actuellement sur le territoire. Tu sais, Sylvie Saint-Michel a tout le temps eu une excellente collaboration des groupes. On a eu des discussions là, en continu tout le temps. Ils veulent se faire entendre. Ils ont eux aussi leur point à l'interne. Là, c'est bien gros là, les discussions qu'il y a actuellement. C'est la légitimité des chefs de territoire versus les conseils des réserves. Là. C'est, en gros, c'est le chef de la communauté versus les chefs de territoire. C'est là que ça se passe actuellement. Les chefs de territoire veulent se faire entendre. Puis ça, j'entends moi ça, ce message-là. Puis je vous dis pas que je suis contre. T'sais, c'est les chefs de territoire, c'est les gens présents sur le territoire.
Les chefs de territoire, par rapport aux chefs de communauté, là, soyez précis, je comprends. Vous parlez des chefs de communauté autochtones par rapport aux chefs de territoire autochtones?
Ben, exemple pour Lanaudière, hein. On a M. Sipi Flamand qui est le chef de la communauté de Manouane. Puis on a aussi, en parallèle à ça, une douzaine de chefs de territoire qui sont les représentants des familles de chacune des territoires partout dans Lanaudière. Mais ces gens-là, ils veulent se faire entendre, puis c'est ça qu'on voit actuellement là, dans les moyens de pression. C'est pas la communauté ici qui se lève, c'est les chefs de territoire. Puis ça c'est des personnes qui sont là depuis des années, puis ils ont le droit de se faire entendre, sauf que faut discuter avec eux autres, faut comprendre les réalités, faut comprendre les messages qu'ils veulent nous lancer, mais au final, faut travailler tout ensemble à avoir l'objectif que les opérations forestières sont présentes sur le territoire.
Elles sont importantes. Elles sont importantes, oui, c'est pas.
Elles sont importantes. C'est une part importante du développement des régions du Québec. Mais on n'est pas pressé de se tromper dans la modernisation de la loi. Il faut bien faire les choses. Je pense que la ministre va prendre son été pour prendre le temps de regarder toutes les interventions qu'il y a eues. Là. Il y a eu, je pense, plus que 20 groupes d'intervenants qui a passé là, au plaidoirie de la loi. Moi, je pense que j'ai confiance à la ministre qu'elle va prendre le temps d'écouter tout ce qui a été dit, puis de nous revenir avec des amendements qui vont être sa loi. On n'a pas la proximité à savoir qu'est-ce qui va revenir là-dedans, sauf que je pense que jusqu'à date, dans tous les ministres des forêts qu'on a eu des dernières années, c'est la seule qui a eu le courage d'adresser la loi.
Et concernant les barricades, il n'y en a pas là, chez vous, là, à Saint-Michel-des-Saints?
Bien, nous, on a des signes. Là. On voit là, les tipis en bois, là, comme qu'il y a dans d'autres régions. Mais tu sais, encore ce matin, j'avais des discussions avec les groupes. Puis on a des rencontres prévues dans les prochains jours pour discuter de leurs points. Puis nous, on à Saint-Michel, on a tout le temps eu des discussions avec les chefs de territoire et la communauté. Puis notre futur... On souhaite pas un futur sans discussion. On maintient ce qu'on fait déjà. On pense qu'il y a des bonnes choses de faire dans la discussion. Puis jusqu'à date, tu sais, regarde, pour la prochaine année, on a des secteurs qu'on discute avec eux autres, puis on prend le temps d'harmoniser avec eux autres. Il faut juste écouter ce qu'ils disent, puis à partir de là, c'est de trouver des solutions pour que tout le monde soit en accord avec le travail qu'on fait. Tu sais, au début, là, je suis d'accord avec la population. Quand on récolte une forêt au départ, c'est pas beau, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, puis quand on y tourne 5 ans, 7 ans, 10 ans après, on voit le résultat positif que ça donne, ces écosystèmes forestiers. Puis on a juste à penser aux années 2000, quand que la foresterie a arrêté à Saint-Michel-des-Saints, puis la Louisiana Pacifique a quitté, les impacts négatifs que ça a eu sur la région pour l'accès au territoire, pour la qualité des forêts qu'on avait. On perdait des forêts. C'est un jardin qu'on aménage. Puis, faut se vendre à la population parce que, oui, il y a eu, dans les années 80, des choses que même nous autres, on n'était pas d'accord. Puis, faut rebâtir une confiance avec le peuple québécois là-dessus. Mais on est ouvert à la discussion. Puis, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'au final, qu'on soit fiers de notre foresterie comme qu'on est fiers de notre hydroélectricité.
On est en effet très fiers de notre électricité. Merci beaucoup, Jean-François Champoux. On est tellement fiers que le président directeur général sortant d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a quitté aujourd'hui. En tout cas, il va quitter au cours des prochains jours Hydro-Québec. On va en parler, on va en glisser un mot un peu plus tard cet après-midi dans l'émission avec Pierre Paquette, notre commentateur politique. Au retour de la pause, on parle avec Nouveau Monde Graphite de Saint-Michel-des-Saints. On va parler avec Julie Paquette, la vice-présidente de communication et stratégie.
C'est l'heure du 4 à 7 sur la terrasse de la Cage du Lac à Saint-Gabriel. Du mercredi au vendredi de 16h à 18h, venez relaxer avec notre ambiance unique et nos spéciaux 2 pour 1 sur une sélection de boissons. Et les fins de semaine ensoleillées, ne manquez pas notre grande nouveauté, le barbecue sur le toit préparé par notre chef. Une façon festive de profiter de l'été. Avec la vue sur le lac Masquinongé et les arômes du grill, vous serez conquis. Terrasse, bonne bouffe, bonne compagnie, tout y est. Réservez votre table au 450-271-8217 ou en ligne à cagedulac.com.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partielle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partiel, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Profitez de l'événement La Sinissant sur un Kicks S 2025 attraction avant location 60 mois pour seulement 85 $ plus taxes par semaine sans aucun comptant initial. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
C'est spectaculaire! Venez assister au circuit de motoneige sur l'eau du Québec ce samedi 14 juin dès 11h à Lavaltrie. Course en ovale, saut, drag, ski nautique derrière une motoneige. Vos yeux seront rivés sur le spectacle. De vrais motoneigistes se confrontent pour remporter la course, mais sur l'eau. C'est un rendez-vous ce samedi 14 juin dès 11h à Lavaltrie pour le circuit de motoneige sur l'eau du Québec. Information 819-357-2835, 819-357-2835.
Le festival Chantevielle vous invite à célébrer sa 21e édition du 27 au 29 juin. Les passionnés de musique traditionnelle sont tous conviés à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour vivre un week-end unique et mémorable. En spectacle, voyez entre autres Le Rêve du Diable, Le Vent du Nord, Grosse-Île, Les Mononcles, La Famille au coin, Solstice, La Fosse et bien plus. Plongez dans les traditions en participant à des ateliers d'instruments, de danse, de chansons, à des sessions de musique, à des veillées de danse et encore plus. Les billets et les passeports sont en vente à chantevielle.com. Le festival Chantevielle du 27 au 29 juin, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Joliette, Saint-Cléophas de Brenden, Entrelac, Saint-Félix de Valois.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, on s'en laisse point poser. La musique américaine, on n'en joue plus.
La Naudière PM, ressources naturelles.
Il est 16h20. Nouveau Monde Graphite de Saint-Michel-des-Saints semble nettement avoir la confiance des investisseurs. L'entreprise, imaginez-vous, consolide la structure de financement par emprunt avec la participation de plusieurs investisseurs pour plus de, tenez-vous bien, $1 milliard américains. C'est de l'argent. François Morin a discuté avec la vice-présidente de communication et stratégie, Julie Paquette.
Donc, on a reçu des lettres d'intérêt à hauteur de $1 milliard américains en vue de notre financement de projet. Ça, c'est pour la portion dette. Donc, dans notre montage financier, on a une portion dette qu'on viendra rembourser. Puis, on a également des investissements directs en équité qui sont également prévus. Donc, bref, le ton est bon pour la suite du développement, là, tant à la mine à Saint-Michel-des-Saints qu'à notre usine de Bécancour. Là, on fait le financement de projet conjoint.
Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des investisseurs autant du domaine privé que du domaine public, le gouvernement du Canada, entre autres.
Exactement. Donc, on a des bailleurs de fonds gouvernementaux au niveau canadien, Export et Développement Canada, EDC, la Banque d'infrastructure du Canada. On a également CGF, là, le fonds de croissance du Canada qui avait investi avant Noël, qui est intéressé là pour la portion de. Donc, on a un beau ensemble de partenaires au niveau fédéral, également provincial avec Investissement Québec qui est un investisseur de longue date et également des partenaires à l'international. Hein. On va vendre notre produit aux États-Unis. Donc, on a une confirmation que l'équivalent de DC aux États-Unis va également participer au financement de projet. L'intérêt est confirmé de ce côté, également à l'international. Donc, bref, je pense que ça démontre que non seulement le projet est opportun et d'intérêt pour les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et occidentales, mais que le modèle d'affaires qu'on a démontré avec nos études de faisabilité un peu plus tôt cette année là, tient la route, c'est solide au niveau technique, au niveau économique, et puis ça nous permet là, d'avoir comme ça des partenaires financiers de qualité de haut niveau.
Mais évidemment, on ne doit pas se contenter d'un milliard parce que ce sont des opérations qui, en bout de ligne, seront coûteuses.
Tout à fait. Hein. Là, on parle de 1 milliard US. En réalité, là, si on se remet en dollars canadiens, c'est près de 2 milliards de dollars là, si on considère l'ensemble des fonds qu'on veut aller chercher là, pour construire la mine et l'usine à Bécancour. Le milliard US qu'on annonce ce matin s'en va du côté de la dette. Au niveau de l'équité, on avait déjà des signaux très forts. Hein. On se rappelle que General Motors et Panasonic, quand ils ont réservé notre matériel l'année dernière, avaient investi à l'époque 25 millions chacun. Et il avait pris l'engagement de réinvestir au niveau du financement lorsqu'on serait prêt pour la construction. Investissement Québec, je le mentionnais tantôt. On a d'autres partenaires comme le Fonds de croissance du Canada qui a également de l'intérêt. Donc, on a un beau montage assez complet qui nous donne confiance pour la suite et qui nous permet d'avancer avec le travail de fond. Hein. C'est beau de rassembler des partenaires qui croient au projet puis qui veulent y investir, mais maintenant, il faut attacher tout ça avec des exercices de vérification diligente, des termes techniques, des contrats pour être fin prêt à lancer la construction.
Dans le contexte où le président américain continue à vouloir imposer des tarifs aux produits qui sont exportés aux États-Unis, est-ce que Nouveau Monde Graphite a adopté une position particulière ou une stratégie?
Bien, nos clients sont américains, hein? General Motors et Panasonic, c'est pour soutenir essentiellement leurs usines aux États-Unis. Ils se retrouvent devant des choix à faire. Hein? Il n'y a pas de matériel qui est disponible directement aux États-Unis, donc d'emblée, ils doivent aller à l'international. Ils peuvent se tourner vers le Canada, où est-ce que présentement, il y a un tarif de 10 % sur les matériaux critiques comme le graphite. Donc, si demain matin, on venait à vendre notre graphite, on aurait ce 10 %-là qui serait applicable versus la Chine où il y a quelques semaines, la commission là, de commerce international des États-Unis a décidé d'appliquer des tarifs à hauteur de 720% sur le graphite parce que l'investigation préliminaire identifiait qu'il y avait des pratiques de dumping, là, si vous me permettez le terme, dans le marché américain. Donc, Lorsqu'on se compare, on se console. Les clients voient un peu le même portrait où est-ce que les relations États-Unis et Chine sont très tendues, très difficiles avec des tarifs significatifs et pour eux de venir faire un partenariat comme ça sur le long terme, développer une chaîne d'approvisionnement locale, c'est une super solution pour réduire les risques de leur chaîne d'approvisionnement et s'assurer qu'ils ont un modèle qui est robuste dans le temps.
En terminant, pour ce qui est des deux projets, c'est-à-dire l'opération de la mine et la mise en production de l'usine de Bécancour, où est-ce qu'on en est?
Bien, là, ce qu'on travaille, on a encore nos usines, notre usine à Saint-Michel-des-Saints de démonstration roule encore. Je salue l'équipe qui est là, d'ailleurs, aujourd'hui à produire du graphite. Donc, on continue à produire des échantillons pour nos clients. On a 80 % de notre production là, qui est réservée pour le volet commercial, mais il nous reste un 20 % sur lequel on avance rondement là, avec d'autres producteurs de batteries de véhicules électriques. Et puis, on travaille également en parallèle à avancer toute l'ingénierie des futurs installations relation commerciale pour s'assurer qu'une fois que le financement est attaché, que l'argent entre dans nos coffres, bien, on est prêt à lancer les travaux sur le terrain, passer les commandes d'équipement et que là, on se lance vraiment en pleine exécution de projet. On veut réaliser ces projets-là à l'intérieur de 3 ans. Le moins de 3 ans, c'est notre timeline actuelle. Donc, une fois que les fonds rentrent, on entrevoit là, qu'on est capable de commencer la production commerciale à l'intérieur de 3 ans, construire, mettre en service et puis initier la production. C'est quand même un échéancier qui est assez rapide. Puis ben ça, c'est grâce à tout le travail de préparation que nos équipes sont en train de faire en arrière-scène aujourd'hui.
Lanaudière PM. Immobilier.
À 16h26 minutes, la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon connaît depuis l'an dernier un essor sur le plan immobilier. On n'a qu'à passer en ville là-bas pour voir là, tout ça monter. En 2024, tenez-vous bien, c'est 114 portes qui ont été complétées, ce qui est important pour cette municipalité de près de 3000 citoyens. J'en ai discuté avec le maire Gaétan Gravel. Écoutez, M. Gravel, il y a plus de 6784 résidences qui ont été vendues dans la région de Lanaudière en 2024. Et de ce nombre, 5235 sont des maisons unifamiliales. C'est une tendance qui se maintient en 2025. Et je suis passé, puis les auditeurs peut-être aussi sont passés à Ville-Saint-Gabriel dernièrement. Ça pousse comme des champignons chez vous. Est-ce qu'on peut parler d'un boom immobilier?
Bien, ça ressemble à ça beaucoup. Je vous dirais que on l'a pas vu venir, mais on voit la conjoncture économique qui fait en sorte que les gens ont de plus en plus de misère à avoir une maison unifamiliale à leur budget. Fait que donc, beaucoup de gens aussi qui font du télétravail, c'est ce qui, je pense, fait quitter les gens des grandes villes et puis qui s'en viennent dans nos régions, dans nos campagnes. Et puis chez nous, ben ça a une belle effervescence, je vous dirais.
Vous savez que depuis le 15 décembre 2024, les acheteurs d'une première habitation et les acquéreurs de nouvelles constructions bénéficient d'un amortissement hypothécaire de 30 ans. Avant, c'était 25.
Et en 25 avant, oui.
Oui, puis en plus d'un prix d'achat minimum là, de 1,5 million de dollars pour un prêt hypothécaire qui est assuré. Bon, je dis pas que vous vendez des trucs à 1,5 million chez vous, mais je dis cependant que ça peut jouer sûrement sur la décision des gens d'acquérir une maison ou un appartement.
Ben, écoutez, je viens du domaine de la construction dans mon ancienne vie et puis je peux vous dire que les prix ont explosé. Fait que c'est sûr que ça vient changer la donne beaucoup. Nous, ben, on a la chance d'avoir des terrains, on a la chance d'avoir les services. Depuis plusieurs années, ben, on travaille beaucoup sur la qualité de notre usine et tout ça. Fait que donc, ça nous permet de recevoir ces unités additionnelles-là.
Est-ce que c'est vraiment l'arrivée de promoteurs un peu plus agressifs sur le plan de la construction chez vous qui explique ça ou c'est des contacts que vous avez faits du côté de la ville?
Je vous dirais que j'aimerais vous dire que c'est des contacts, mais non, c'est des gens qui sont arrivés, qui ont vu l'opportunité et puis qui sont quelques contracteurs là, différents là, qu'on ne connaissait pas nécessairement avant. Puis là, on est en lien avec eux pour s'assurer que tout est conforme à nos lois et nos règlements. Mais je vous dirais que non, c'est des gens qui ont vu l'opportunité, j'imagine, là, pour être capable de construire là, et puis d'avoir les services.
Est-ce qu'il y en a encore beaucoup là dans votre lorgnette au cours des prochains mois?
Il y en a encore qui sont sur la table à dessin. Nous, ce qu'on fait présentement, on regarde aussi pour avoir de l'habitation, c'est bien, mais on veut se garder l'opportunité d'avoir les services aussi qui vont avec toutes les nouvelles habitations. Déjà, on a plusieurs services dans notre ville, puis on est bien content. Ça va aider aux commerçants qui sont déjà installés. Mais il y a peut-être d'autres services qui pourraient se rajouter, puis on regarde un peu là à garder certains créneaux là autres que l'habitation.
Au Québec, on parle de plus en plus, M. Gravel, de logements abordables, de logements pour les gens à faible revenu. Est-ce que vous mettrez de l'avant des incitatifs de ce côté-là, du côté de la ville?
Ben déjà à la ville, on a trois immeubles à faible revenu qu'on est avec la SCHL. Déjà là, pour une petite communauté comme la nôtre, c'est déjà quand même une bonne apport pour les logements primordiques. Pour l'instant, on va pas plus loin parce que déjà on vient d'en rénover un et on en a deux autres là qui sont à rénover. Donc c'est plusieurs milliers de dollars là, qui donnaient accessibilité à ces gens-là.
On parle de combien de portes environ?
Je pense que c'est une quarantaine de portes.
Écoutez, ça doit faire du bien également au niveau des taxes municipales, de ces nouvelles constructions-là.
Ben, on se cachera pas que notre niveau de taxe est très élevé à Ville-Saint-Gabriel, puis on pense qu'avec cette avenue-là, ça va nous aider à stopper un peu là, la pression sur toutes les payeurs de taxes qu'on est. Fait que donc, oui, c'est une bonne nouvelle.
Écoutez, monsieur le maire, votre ville est en effervescence. On peut pas être contre la vertu.
Non. Ben, on est bien heureux, puis on essaie d'accompagner autant que possible les gens qui construisent, puis aussi garder la quiétude des gens qui sont déjà installés.
Merci, Gaétan Gravel. Il est 16h31, on s'en va du côté des informations tout de suite après le bloc pub.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Alors, métropolitaine S vers Repentigny, il y a un petit problème du côté de Marien. Là, il y a 2 voies sur 3 de l'autoroute 40 à la hauteur de Marien qui sont fermées. Pour l'instant, on a dû avoir un accrochage de ce côté-là. Par la suite, on reprend de la vitesse. C'est au vert sur Charles de Gaulle. Petit ralentissement par la suite, 46-40 à Repentigny. Également du côté du boulevard, une fois rendu au boulevard Bouguin, vous allez ralentir également un peu. 40 sur Repentigny, c'est ça, je viens d'en parler. Pont-le-Gardeur par la rue Sherbrooke et Notre-Dame, ça circule bien. C'est une bonne nouvelle. Du côté de la 25 Nord pour le pont de l'île Saint-Jean, c'est au rouge. On prend de la vitesse par la suite jusqu'au pont Sophie-Masson. 46-40 dans les deux directions, eh bien, c'est au rouge à la montée du Mai du côté ouest. Au vert, mais une fois rendu à montée du Mai pour la 640 Est, on ralentit et ce jusqu'à la jonction 46-40. Voilà, ça complète ce bulletin de circulation.
Le mercredi, à partir de 16h, le burger du jour vous est offert à 5 $ de rabais à l'échappée Grill et Bar Sportif. Chaque semaine, on vous propose un burger différent parmi nos classiques et nos nouveautés. Vegan ou cœliaque, on arrange ça. Ah ouais donc, 450-394-1658.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Profitez de l'événement La Nissan sur un Rogue 2025 en location 36 mois avec un taux aussi bas que 0,99%. Venez en concession pour plus de détails. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Il est là comme un seul homme, François Morin.
Bonne fin d'après-midi, Michel.
Au sujet des tarifs douaniers, Nouveau Monde Graphite est confiante en l'avenir.
Oui, c'est parce qu'il faut se projeter un peu dans le temps. On ne sait jamais, les États-Unis pourraient décider de conserver les tarifs douaniers à leur niveau actuel d'ici la mise en production de la mine et de l'usine de transformation de Nouveau Monde Graphite à Bécancour dans 3 ans. Alors, du côté de Nouveau Monde Graphite, on dit que les clients, c'est-à-dire Panasonic et General Motors, dis-je bien, auront un choix à faire, mais selon la vice-présidente responsable des communications, Julie Paquet, eh bien, le choix va s'imposer de lui-même.
Se tourner vers le Canada, où est-ce que présentement il y a un tarif de 10% sur les matériaux critiques comme le graphite, versus la Chine, où il y a quelques semaines, la commission là, de commerce international des États-Unis a décidé d'appliquer des tarifs à hauteur de 720% sur le graphite. Donc, lorsqu'on se compare, on se console.
Donald Trump continue à verser dans le deux poids, deux mesures.
Et c'est en lien avec les interventions musclées commandées par Donald Trump en Californie pour mater les manifestants opposés à ses politiques de migration. Eh bien, selon notre expert politique, Mathieu Bélanger, c'est une démonstration du deux poids, deux mesures dont fait souvent preuve le président. Somme toute, Donald Trump veut réduire au silence celles et ceux qui ne sont pas de son avis. Et d'ailleurs, Mathieu Bélanger fait référence ici à l'attaque du Capitole pour laquelle les responsables ont été gracié.
Trump lui qualifie ces gens-là de cette manifestation-là, cette attaque-là contre le Capitole de démonstration d'amour. On sent qu'il y a deux poids, deux mesures, mais ça correspond à ce que souvent Donald Trump a exprimé, une volonté, parfois dans le discours, mais une volonté d'accepter l'utilisation de la violence contre ses adversaires politiques, mais que l'inverse, par contre, lorsque les adversaires politiques utilisent de la violence ou des symboles de violence, de condamner ça dans les termes plus forts.
Comme quoi on fait des bien belles choses au Québec, le modèle québécois des groupes communautaires est envié du reste du Canada.
Oui, bien qu'imparfait et insuffisamment financé, le modèle québécois des groupes communautaires a l'avantage d'être reconnu par l'État. Ailleurs au Canada, ce sont des organismes à but non lucratif ou non gouvernementaux dont le financement de base n'est pas garanti. Là-dessus, le directeur de la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, Hugo Valiquette.
T'sais, nous, on souhaite l'indépendance du réseau public. On souhaite qu'on soit autonome pour qu'on représente les membres puis qu'on soit à leur réalité. Mais dans les autres provinces, pour avoir du financement, faut soit que tu ailles voir des fondations, soit que tu aies la charité, donc que les gens décident d'investir dans ta mission, ou il va y avoir des tractations avec des gouvernements, surtout fédérales, mais pour des projets précis. On va dire, tu vas recevoir de l'argent pour faire ça.
Et d'ailleurs, il en sera question dans la capsule « La vie dans Lanaudière » avec Nicolas Bellemare dans quelques minutes.
C'est l'époque des cônes oranges et d'importants travaux seront réalisés à Saint-Roch-de-Lachigan au cours des prochaines semaines.
Et je vous mets ça dans le contexte, Saint-Roch-de-Lachigan qui va consentir des investissements afin de contrer les effets des changements climatiques. Le ministère des Transports va aussi contribuer à ces efforts, de sorte qu'il faudra s'armer de patience sur le réseau routier de la municipalité au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, le maire Sébastien Marcille a livré de l'information là-dessus sur ses réseaux sociaux.
Le MTQ va faire de son côté sur la 339-341, sur la 339, 9 ponceaux qui vont être refaits. C'est une bonne nouvelle. Il n'est pas trop tôt pour faire ça, parce qu'on l'a vu dans la tempête Déby, le ruissellement des eaux était parfois difficile, donc il y a des ponceaux qui vont être faits. C'est de notre côté de la municipalité, on prévoit encore 4 ponceaux, les contrats sont pas donnés.
Et il y a le dossier de 2 présumés trafiquants qui traînent devant les tribunaux.
Oui, Sébastien Chabot et Émilie Chamberlain qui doivent répondre de 9 chefs d'accusation de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Et c'est en lien aussi avec la possession et le mauvais entreposage d'armes à feu. Alors le duo est revenu brièvement au palais de justice de Joliette aujourd'hui pour apprendre finalement que la cause sera reportée au 11 septembre. Il y a des discussions qui se poursuivent entre la Couronne et la Défense afin de faire avancer le dossier. Sauf que le dossier, il avance pas vite. Les événements reprochés seraient survenus le 15 juin 2022 à Repentigny. Ça fait déjà 3 ans. Le duo avait été arrêté par la GRC et il est actuellement en liberté sous condition. Voilà, ça complète. D'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM culturel.
Eh bien, mission accomplie pour les organisateurs du premier Mélo Festival, un festival de musique nouveau genre. Ça avait lieu il y a une semaine à l'aréna de Repentigny. L'événement, tenez-vous bien, a accueilli 15 000 visiteurs et Régent Turgeon a rencontré le cofondateur Samuel Nadeau-Piouze.
Samuel, si tu avais un seul mot pour résumer là, ce qu'a été la première édition du Mélo Festival, ce serait quoi?
Légendaire. Ce serait légendaire. On a tellement apprécié notre expérience. Je pense que tous les festivaliers, on l'a vu dans le visage de tout le monde. Là, c'était des sourires qui étaient fendus jusqu'aux oreilles. Autant de la communauté que des gens de la ville, que tous les services, que ce soit pompiers, policiers. Je pense que tout le monde a embarqué. Puis je pense que Repentigny avait besoin de ça. Là.
Est-ce que tes attentes, à l'évidence, ont été comblées, voire surpassées?
Ils ont été... comblé parce qu'on s'attendait à quelque chose de gros déjà, surpassé parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à une réponse aussi positive de tout le monde. Je pense que ça s'est pas bien passé, donc ça a été très, très, très satisfaisant. Là.
Les gens veulent savoir la participation. On a vu des vidéos, ça semblait très, très actif sur le site. Des chiffres comme ça, à prime abord.
On a eu plus de 15 000 festivaliers. Là. Au-dessus de 15 000, on n'a pas le chiffre exact, là, entre 15 et 20, qui sont passés sur le site là, durant la fin de semaine.
Et financièrement, c'est peut-être un peu tôt pour un bilan, mais à première vue, ça pourrait être satisfaisant.
Oui, c'est satisfaisant. Et écoute, nous, on est là pour rester aussi. Nous, c'était pas juste une histoire d'un festival. Donc, on sait qu'on a fait des gros investissements. Puis c'est pour rester dans le futur, puis de s'assurer d'avoir des succès aussi dans les prochaines années.
parlons de l'organisation. Est-ce qu'il y a eu des imprévus ou bien tout avait été bien calculé? Puis est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer là?
Bien, il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense qu'on est très dur envers nous-mêmes, puis on veut toujours créer un événement qui va être de plus en plus parfait. Je ne suis pas sûr qu'un événement parfait existe, mais je pense que le festivalier en soi s'en est pas rendu compte. En fait, je dis que le festivalier s'en est pas rendu compte. On a eu quelques commentaires qui ont été extrêmement constructifs. Déjà, entre le vendredi, le samedi et le dimanche, on a pu améliorer l'expérience festivalière. Okay. Mais je pense que on a des très bonnes idées pour les années qui s'en viennent.
Commentaire du public, en a glissé un mot, beaucoup de festivaliers, très heureux de l'atmosphère et tout ça. Les artistes, eux autres aussi, là, vivaient une première. Est-ce qu'ils ont été d'abord très satisfaits de l'accueil, mais aussi des installations?
C'est un des plus beaux cadeaux qu'on a eu. Ce qu'on se faisait dire souvent, c'est que ça paraissait pas que c'était une première édition. On avait une organisation qui semblait plus à être des festivals de 5, 10 ans. Fait que le monde se rendait même pas compte qu'on était une première édition. Puis je pense que ça a été assez unanime là, de la part des artistes, que ce soit des gens de grande expérience comme Michel Rivard qui ont trippé, autant que des grands groupes qui sont habitués de faire des tournées mondiales. Là, que je pense à Charlotte Cardin qui était en Europe beaucoup. Mais je pense que tout le monde a été extrêmement... enchanté là, face à nos installations. On n'est pas allé à moitié. Là. Je pense que nos stages également étaient extrêmement beaux, visuellement très, très attrayants, fait que des beaux shows de lumière, puis des bons systèmes de son. Fait que c'est ça, le mélo aussi. C'est une expérience qui est complète, avec une qualité sonore puis une qualité visuelle incroyable.
On peut déjà penser à 2026, une deuxième édition. Espérer peut-être que des gros noms comme Rivard puis Charlotte Cardin puissent revenir ou bien entraîner d'autres de leurs collègues de la scène culturelle et musicale avec eux autres.
Définitivement. On retombe sur la plage blanche un peu. Là, on veut recréer de quoi de magique. Je pense que j'étais beaucoup impliqué là, dans justement cette programmation-là de la première année. Je vais me réinspirer tout au long de l'été. On a déjà des bonnes idées aussi, là, que ce soit des artistes extrêmement talentueux québécois. Est-ce que ça va être un peu plus international? Ça, on va vous laisser voir au cours des prochains mois. Là, mais on a des grandes idées pour les prochaines années.
La ville était derrière vous autres. On est satisfait de ce point de vue-là?
Oui, très satisfait. Très satisfait. Je pense qu'il y a une super belle collaboration qui s'est créée au cours des derniers mois. On est arrivé rapidement. Là, on a créé cet événement-là très rapidement. Mais plus ce projet-là avançait, bien, plus cette collaboration-là devenait naturelle. Fait que je pense qu'on l'a bien senti au cours de l'événement. Puis on a bien hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Là.
Les bénévoles étaient au rendez-vous. Eux autres aussi ont dû apprécier l'expérience.
Ben oui, j'aurais dû en parler comme même avant dans cette entrevue-là. Une chance qui était là, l'équipe de bénévoles ont permis d'avoir cette expérience-là qui était unique. On a plus de 70 bénévoles là, qui sont venus faire un tour sur le site. Un événement comme celui-là, c'est impossible sans l'apport de tout le monde, que ce soit dans le montage, dans le démontage. Lors de l'événement, il y a du monde qui sont venus nous aider, puis ça n'aurait pas été possible sans eux. On est extrêmement chanceux d'avoir pu compter sur une équipe comme celle.
Eh bien, bravo à toute l'équipe. Dans un instant, Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Ma Tante Roulotte. Fromage à raclette, confit d'oignons et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
En grande première mondiale, le Cirque Alphonse dévoile son tout nouveau spectacle pour tous dès le 19 juin au Festival de Cirque Bastringue. Avec musique en direct, chant, cirque, audace et danse, cette troupe lanaudoise de renommée internationale vous invite à une célébration déjantée où humour, poésie et performance spectaculaire s'entrechoquent. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com.
CFNJ 99.1 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Il est 16h45. Pierre Paquette, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, Pierre, il y a du côté d'Hydro-Québec des nouvelles assez percutantes cet après-midi. Ça a surpris tout le monde. Michael Sabia qui quitte la société d'État.
Oui, il va quitter pour un poste très important de la fonction publique fédérale, celui de greffier du conseil privé. Le conseil privé, c'est le ministère du premier ministre. Alors donc, c'est sûrement à la demande de Michael Carney que M. Sabia a décidé de quitter Hydro-Québec. Il quittera au début juillet, alors ça va être assez rapide. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix d'accepter la proposition. C'est quand même un poste très prestigieux où il va avoir énormément d'influence sur les politiques aussi bien économiques, sociales, environnementales du Canada.
Après le premier ministre, ça va être le numéro 2.
C'est ça, il pouvait pas dire non. Ceci dit, je suis convaincu que ça arrange pas trop M. Legault parce que Sabia, ça fait juste 2 ans et demi qu'il est en poste. Il avait commencé un certain nombre de chantiers. Bon, il y a eu l'entente avec Terre-Neuve sur Churchill Falls, ça c'est des aspects positifs, mais tout le reste c'était des projets qui sont en branle. Et la semaine dernière, Mme Fréchette a fait adopter avec le baillon la loi que voulait M. Sabia pour réduire les pouvoirs de la Régie de l'énergie, pour augmenter la marge de manœuvre d'Hydro-Québec pour ces projets. Alors, le plus embêté dans l'affaire, c'est sûrement M. Legault et Mme Fréchette.
Mais on attendra pour voir la suite le remplaçant de Michael Sabia. Maintenant, parlons, si vous voulez bien, de la course, de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Écoutez, ils ont une méthode d'élire leur chef assez particulière. Parlez-nous-en.
Ben oui, alors ça, c'est quand même assez particulier parce que ce système de pointage du Parti libéral du Québec fait en sorte qu'on peut pas savoir vraiment qui va gagner cette course. Bon, on sait que le favori actuellement, c'est Pablo Rodriguez. Dans un sondage récemment, Léger lui donnait 32%, suivi de M. Blackburn à 6% et Charles Milliard avec 3%. Mais ceci dit, le système de pointage fait qu'on peut pas en déduire que M. Rodriguez va gagner au premier tour samedi prochain. Alors déjà, depuis le 9 juin, les membres votent et le résultat va être connu le 14.
Celui qui obtient le deuxième choix a beaucoup de chance également, je pense.
Ben oui, parce que s'il n'y a pas 50%, le premier, ben il y aura un deuxième tour. Et déjà, les membres du Parti libéral, lorsqu'ils votent pour un premier candidat et un deuxième si leur candidat n'est pas retenu ou n'arrive pas à gagner. Alors, au total, chaque circonscription a 3000 points. Alors, chaque circonscription a 3000 points, ce qui fait qu'au total, il y a 375 000 points qui sont dévolus aux circonscriptions. Dans chacune de ces circonscriptions, il y a 1000 des 3000 points qui vont à des jeunes de moins de 25 ans. Et c'est là où la faiblesse du système apparaît parce que il y a 15 circonscriptions au Québec du Parti libéral, de l'association libérale de cette circonscription, qui ont un seul membre de 25 ans et moins. Donc, ça veut dire que cette personne-là va détenir le tiers des votes de la circonscription. Là,
dis-moi, Pierre, est-ce qu'ils ont engagé des mathématiciens, les libéraux, pour calculer?
Je pense pas, parce qu'ils auraient sûrement trouvé un autre système. Il y a 46 circonscriptions qui ont 5 jeunes et moins. Donc, ces 5 jeunes-là vont avoir dans leurs mains les 1000 points de la circonscription, 1000 sur 3000 des points. Au total, ces circonscriptions-là, c'est-à-dire avec moins de 5 jeunes de 25 ans et plus, et 25 ans et moins, vont avoir 61 000 points, donc 32,5% du vote, de ce que ça prend pour un des candidats soit choisi chef. Ça prend 187 500 points pour gagner. Ben, il y en a 61 000 qui appartient à ces jeunes de 25 ans et moins dans des circonscriptions qui ont 5 membres et moins de 25 ans.
Qu'on peut dire que c'est les jeunes qui vont déterminer le gagnant?
Oui, ben d'une certaine façon, oui. Et pour le moment, les jeunes appuient Milliard, qui n'a que 3% des votes selon le sondage de Léger. Mais encore une fois, leur système de pointage fait en sorte que tout ça est factice, parce que ça va dépendre, encore une fois, de où les jeunes vont voter. Et aussi, il faut voir que les circonscriptions de l'extérieur de la grande région de Montréal, où se concentre la majorité des membres du Parti libéral du Québec, vont avoir un poids démesuré par rapport à la grande région de Montréal. Donc, c'est vraiment un nid de Pandore, si on veut.
Ça rend la course intéressante.
Oui, mais ça rend la course intéressante d'un point de vue, je dirais, de loterie, plus que de débat politique.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Alors, c'est le 14, c'est le samedi prochain que le vote aura lieu, donc on pourra en parler lundi prochain.
Merci.
Merci, Pierre.
Alors, on remercie aux gens qui ont participé à notre émission aujourd'hui. Jean-François Champoux, le président et directeur général de la Série Saint-Michel. Julie Paquette, vice-présidente de communication et stratégie de Nouveau Monde Graphite. Le maire de Saint-Gabriel, Gaëtan Gravel. Le cofondateur du Mélo Festival de Repentigny, Samuel Nadeau-Pius. On vient de parler à Pierre Paquette. Un gros merci également à François Morin, Régent Turgeon et Nicolas Bellemare. Ici Michel Arnois, qui vous dit à demain. Dans un instant, manquez pas la vie d'Hélène Audoy avec Hugo Valiquette.